Je vous propose ce matin d'écouter deux lectures parmi les textes qui nous sont proposés aujourd'hui. La première se trouve dans l'Ancien Testament, dans le second livre de Samuel, 2 Samuel 7, les 16 premiers versets. Le roi David s'installa dans son palais, le Seigneur le protégeait de tous les ennemis qui entouraient son royaume. Un jour, le roi dit au prophète Nathan, j'habite une maison en bois de cèdre, et le coffre de Dieu n'a pour abri qu'une tente de toile. Qu'en penses-tu? Tu as certainement une idée à ce sujet, répondit Nathan. Vas-y, réalise-la, car le Seigneur est avec toi. Mais la nuit suivante, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. Va trouver David, mon serviteur. Tu lui diras, voici ce que te déclare le Seigneur, ce n'est pas toi qui me construiras un temple où je puisse habiter. Je n'ai d'ailleurs jamais habité dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, j'ai accompagné les Israélites en n'ayant qu'une tente comme demeure. Bien plus, durant tout ce temps, j'ai confié à plusieurs chefs le soin de gouverner Israël, mon peuple, mais je n'ai reproché à aucun d'entre eux de ne pas m'avoir construit un temple en bois de cèdre. C'est pourquoi tu diras encore à David, « Voici ce que te déclare le Seigneur, le Dieu de l'univers. Lorsque tu n'étais qu'un gardien de moutons, je t'ai pris au pâturage pour faire de toi le chef d'Israël, mon peuple. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises, j'ai exterminé tes ennemis devant toi. Grâce à moi, tu obtiendras un renom semblable à celui des plus grands rois de la terre. Je donnerai à Israël, mon peuple, un lieu où je l'installerai pour qu'il y demeure sans rien avoir à craindre. Aucune population malveillante ne recommencera à l'opprimer comme autrefois, à l'époque où j'ai confié à des juges le soin de gouverner Israël, mon peuple. Je te protégerai toi-même de tous tes ennemis. Enfin, je t'annonce que moi, le Seigneur, je t'accorderai des descendants. Lorsque sera venu pour toi le moment de mourir, je désignerai l'un de tes propres enfants pour te succéder comme roi. Et j'établirai fermement son autorité. C'est lui qui me construira un temple et moi, je l'installerai sur un trône inébranlable. Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. S'il agit mal, je le punirai comme un père punit son fils. Cependant, je ne lui retirerai pas mon appui, comme je l'ai fait pour Saül lorsque je l'ai rejeté et que je l'ai remplacé par toi. Un de tes descendants régnera toujours après toi, car le pouvoir royal de ta famille sera inébranlable. Nathan rapporta à David tout ce que Dieu lui avait dit dans cette vision. Et puis nous écoutons un deuxième texte, cette fois-ci dans l'Évangile selon Luc, au premier chapitre, les versets 26 à 38.
Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra à toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » et l'ange la quitta.
Pour le quatrième et dernier dimanche de l'Avent, c'est donc l'annonce faite à Marie qui nous est proposée. Et parmi les quatre évangiles, vous le savez, il n'y a que celui de Luc qui donne autant de détails sur ce qui précède la naissance de Jésus, sur les circonstances de cette naissance et les premières années qui la suivent. Il n'y a que Luc qui donne tout ce luxe de détails. Et en lisant ces textes, à chaque fois, on a la très nette impression qu'ils ont été ajoutés tardivement aux traditions concernant les enseignements de Jésus à ses disciples, bien des années plus tard. Il y a ce corpus de textes, d'enseignements, et puis Luc a ajouté un certain nombre de choses, il n'est pas le seul à l'avoir fait d'ailleurs. L'évangile de Marc finit abruptement par des phrases comme « elles ne diront rien à personne parce qu'elles avaient peur », et puis quelqu'un a trouvé plus expédient, plus esthétique de finir joliment en ajoutant quelques lignes. Ici, c'est un début d'évangile qui commence joliment. C'est effectivement le cas ici, nous avons bien affaire à un supplément qui ne vient pas à la fin, mais qui débute l'évangile et qui a pour objectif d'être un préalable nécessaire. Ce sont les choses qu'on dit d'abord. Il fallait que Luc présente la mission de celui qui allait naître et qui deviendrait le Messie tant attendu, en reprenant toutes sortes de citations, dont Ésaïe 7, 14 en particulier, et puis qui fasse allusion également à 2 Samuel 7, que nous avons relu juste avant notre passage de Luc. Il faut que cet enfant à naître soit Messie et Fils de Dieu, et que ces deux titres fondamentaux soient présents dans le récit tout de suite, bien avant qu'il le devienne, bien avant qu'il prenne conscience de l'être lui-même, parce que d'autres le lui prêtent, ce titre de Fils de Dieu. Il fallait que les deux titres fondamentaux soient présents pour légitimer, pour asseoir de manière stable le ministère qui va suivre. Quant à la conception virginale, elle est, on le sait, un procédé littéraire qui permet de souligner très simplement mais puissamment, et donc en vérité d'une certaine manière, l'origine très particulière, très spéciale de cet enfant qui vient. C'est une mise en récit comme il y a des mises en images, comme il y a des mises en scène. L'important n'est pas d'assister à une anomalie obstétrique, évidemment, mais de comprendre que Luc a tout fait en écrivant comme il l'a fait, pour nous présenter à sa manière la haute importance de cet enfant à venir, un peu comme dans certaines pièces de théâtre où l'auteur donne, avant de commencer, la liste des personnages avec leur caractère, des indications précieuses sur leur personnalité, et tout ça avant d'entamer la première scène de l'acte 1. Et parce que c'est fait avant, c'est ce qui permet de lire l'ensemble de la pièce avec profit, en ayant déjà fait connaissance avec les personnages. C'est ce que Luc fait ici, un peu à sa manière. Ce texte n'est probablement pas celui que nous relisons le plus souvent dans le Nouveau Testament, d'abord parce qu'il est saisonnier, il est un peu prisonnier de ce succès très, très réduit, il n'y a qu'à certains moments qu'on le lit, mais il y a quelque chose d'assez vibrant dans ces lignes, comme si on cherchait à faire ressortir ce qu'il y a de meilleur chez nous malgré les circonstances, puisque nous savons aussi, en lisant un peu avant et un peu après, dans l'évangile de Luc et dans les autres, dans quelles circonstances tragiques cet enfant arrive au monde. Voici donc l'histoire de cette jeune fille complètement anonyme, on aurait pu l'appeler la jeune fille sans qualité, sans titre, sans prestige, sans rien, ou presque, devenue pour les siècles qui suivent une histoire pourtant unique, fondatrice. C'est resté. C'est une mise en scène, c'est une mise en récit, mais l'essentiel étant contenu, nous l'avons conservé. La tradition a peut-être bien, sûrement même, surexploité l'histoire de cette jeune fille au point de faire d'elle le centre de l'attention, parfois la mère de Dieu ou la reine des cieux, que sais-je encore. Et en surinvestissant parfois aussi l'anomalie obstétrique du récit, comme si c'en était le centre, ce qui évidemment n'est pas le cas. Mais peu importe. Loin de ces surinvestissements de la tradition, Marie a tout de même eu une vie conforme à la plupart des jeunes filles de son époque, et c'est normal. C'est peut-être justement là qu'est la pointe intéressante de ce récit, l'irruption de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et c'est ça qui nous fait cet effet. C'est ce qui fait que ces récits ont été conservés, gardés, et qu'ils surplombent en servant d'introduction à l'ensemble de l'évangile qui suit. Il y a dans cette histoire quelque chose qui rappelle de nombreux personnages de la Bible. Abraham ne se serait pas levé pour quitter sa maison et les siens s'il n'y avait pas eu quelque chose qui le tire en avant, s'il n'y avait pas eu une promesse qui le fasse se lever, une promesse d'avoir un peuple et une terre. Samuel, dont nous avons relu un passage, n'aurait pas été le prophète qu'il fut toute sa vie s'il ne s'était pas rendu disponible, lui, si spontanément. Salomon, qui est évoqué ici, même s'il n'est pas nommé, c'est le fils qui construira le temple, n'aurait pas été le roi que l'on sait s'il n'avait pas attendu avec confiance la sagesse qu'il demandait, parce qu'il n'avait demandé que cela. Etc., etc. On pourrait multiplier les exemples, mais de la même manière, ici, dans notre récit, si Marie n'avait pas répondu à un appel, d'une certaine manière, elle n'incarnerait pas pour nous le modèle aussi, un des modèles d'une confiance bien particulière qui s'exprime dans les textes bibliques. C'est certainement grâce à ce qu'incarne Marie ici que nous sommes au fond parfaitement protégés du merveilleux qui enrobe le texte. C'est un peu grâce à elle, des apparitions angéliques et autres miracles, le miraculeux ou le sensationnel qui imprègne beaucoup de textes comme celui-ci, et dont beaucoup, heureusement, malheureusement, se sont contentés en n'allant pas voir à l'intérieur de la boîte ce que le cadeau contenait. Il aurait fallu couper le bolduc avec une paire de ciseaux. C'est dommage, tout le monde ne l'a pas fait. Voilà une histoire merveilleuse qui a pour but de nous interroger sur la présence de Dieu en nous, comme un enfant au fond d'un ventre. C'est un langage symbolique qui invite à voir ce qui se cache derrière les mots et les images. Si on revient au cas de Marie, on se dit que l'enfant qu'elle porte, avec tout ce qu'on nous dit par la suite de cette enfance, celui-là ne sera pas facile à élever. En suivant le cours de l'évangile, on découvre peu à peu qu'il a fugué à 12 ans, en forçant ses parents à se faire un sang d'encre. Ce n'est pas le seul à fuguer à 12 ans, hein, mais... voilà un enfant tout à fait normal, finalement, qui force ses parents à se demander quelle est, non pas leur vocation à eux en tant que parents, mais quelle est la vocation de celui qu'ils ont mis au monde, qui les entraîne en avant, à regarder l'histoire en aval, après eux. Son comportement un peu à la marge n'a pas cessé de les inquiéter. Comment comprendre un garçon qui passe le plus clair de son temps avec les plus grands maîtres, fin connaisseur de la loi? Assis au beau milieu du temple, qu'est-ce qu'il faisait là, ce gamin de 12 ans? Comment comprendre qu'il finisse par tourner le dos aussi à sa propre famille, à une vie toute tracée, un métier, voilà, il suffisait de reprendre l'entreprise de charpente de papa, ça aurait été plus simple. Comment comprendre qu'il ait fait ça, si ce n'est qu'il a voulu sans doute s'inscrire dans la lignée tracée par Abraham, Samuel, Salomon et tant d'autres avant lui? Marie, dans notre texte, ne sait pas encore tout ça, évidemment. Ce qu'elle sait, en revanche, c'est qu'elle doit aussi suivre cette même démarche, que ça passe par elle. Une confiance qui engage un avenir encore indiscernable. Elle ne discerne pas ce qui vient, pas plus qu'Abraham ne voyait à quoi ressemblerait un peuple et une descendance tellement lointaine qu'il n'en verrait pas l'accomplissement ou la venue. Aucune mention de sa vie chez Luc, cette jeune Marie, entre les premiers chapitres et le jour où on la retrouve au pied de la croix, elle est totalement estompée, elle disparaît, pour ne revenir qu'à la fin. Le parcours de Marie est, pour ainsi dire, presque achevé ici, elle a, comme qui dirait, fait l'essentiel. Ce qui est intéressant chez elle est donc ce qui n'est pas dit. Pas de recrutement de disciples, pas de fondation d'une quelconque école, pas d'enseignement, pas de programme, quel qu'il soit. Sa vie se résume à un rôle de maillon dans une chaîne de transmission, une sorte de catalyseur ou de déclencheur. C'est ce qu'elle est ici, c'est à ça qu'elle sert. Et peut-être que c'est exactement ce qui est attendu de nous aussi. Dès que nous faisons normalement ce que nous avons à faire, dans l'ordinaire, pas dans l'extraordinaire, nous sommes comparables à ce que Marie fait ici, en nous posant d'abord la question « qu'avons-nous reçu ?»« Que sommes-nous prêts à transmettre ? Quel rôle avons-nous à jouer dans cette chaîne de transmission ?» En étant simplement membre de l'Église, comme c'est le cas pour nous, ici et maintenant, nous travaillons à la construction d'une espérance lucide. Nous sommes également prêts à laisser la place à ceux qui, après nous, produiront le même effort, nous l'espérons. Ils ne sont pas très grands, peut-être pas encore nés d'ailleurs, mais ça viendra. Et nous avons suffisamment confiance en eux pour voir en eux ceux qui seront l'Église après nous. Au fond, comme le dit le texte, un ange apparaît. Il faut bien qu'il y ait un ange quelque part. Ça aussi, c'est très saisonnier, mais il y a toujours un ange quelque part. Et il apparaît avec la puissance du Très-Haut, qui nous couvre de son ombre. Mais il apparaît chaque fois que nous faisons en Église la démonstration que nous sommes prêts à donner la vie à ce qui nous succédera. Quand nous sommes prêts à cela, alors un ange apparaît. Peut-être pas sous la forme qui orne certains de nos sapins, je ne sais pas s'il y en a dans celui-ci, dans le mien, oui. Les transmetteurs d'espérance, en tout cas, que nous tâchons d'être, reçoivent cette même promesse d'une grâce pas encore dévoilée, mais à laquelle il faut croire d'emblée pour pouvoir la transmettre en toute confiance. C'est l'histoire d'une naissance perpétuelle que nous nous remémorons pendant le temps de l'Avent et de Noël. Ce texte de l'annonce à Marie réaffirme pour nous tous, que Dieu n'est présent qu'en étant partie prenante de ce que nous vivons. Il est un Dieu qui se manifeste à travers nous, par nous et par ce que nous faisons. Ce n'est pas ce qui se voit qui a de l'importance, mais plutôt ce qui est annonciateur de son royaume en cours d'avènement, toujours en gestation. C'est jouer son rôle dans ce processus qui ne doit pas s'arrêter, qui fait que un ange apparaît et que c'est peut-être bien nous. Ici, nous retrouvons l'irruption de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ce ne sont pas les puissants qui seuls font l'histoire et qui ressemblent à ceux que cite Luc en commençant son évangile, hein, César, Hérode et tous les autres qui ont disparu et dont seuls les historiens spécialistes se souviennent encore du nom et de leurs faits et gestes. Ils emploient leurs énergies en général à ajouter du hasard au hasard, du chaos au chaos, comme beaucoup après eux, remuant beaucoup de choses pour ne rien changer et perpétuer le même désordre. Qui a retenu leur nom ? Pas grand monde. Luc l'a fait pour nous. C'est un des rares, mais c'est vrai qu'il était historien, en plus d'être médecin. Hérode, César ont disparu des mémoires, mais nous avons, nous, retenu le nom de cette jeune fille sans qualité particulière et celui de son fils, dont l'avenir était loin d'être assuré. Et c'est ce que nous avons gardé. C'est étrange, non ? Luc nous met en parallèle deux récits presque concurrents, si vous lisez par la suite. Vous avez l'annonce à Marie, puis vous avez l'annonce faite à Élisabeth, la réaction de Zacharie. Vous avez toutes ces histoires parallèles qui se déroulent devant vous au fil du récit. Si vous relisez les versets qui achèvent le premier chapitre de Luc, vous pourrez voir les différences. Elles sont assez peu nombreuses, mais c'est peut-être grâce à ça qu'on les repère mieux. Zacharie demande, par exemple, la confirmation de la promesse de la naissance. Lui, n'en est pas certain. Il a besoin d'une assurance supplémentaire. Marie, elle se contente de demander comment cette promesse pourra prendre place. Elle a déjà compris que ça aura lieu, mais elle ne sait pas comment. Ce n'est pas la même confiance qui est décrite ici. Et elle est chez Marie tout sauf la soumission à un destin aveugle, elle est surtout le consentement au fait de devenir acteur du projet de Dieu parmi nous. C'est à ça qu'elle dit oui dans ce texte. en faisant d'une jeune fille sans qualité particulière la reine du ciel ou la mère de Dieu avec ou sans couronne, avec les étoiles qui vont avec, hein, comme celle du sapin, justement. La tradition a essayé de faire quelque chose. Elle a peut-être essayé de renvoyer Dieu dans son ciel pour qu'il ne se mêle pas trop de nos affaires. Ça a en partie réussi d'ailleurs, hein, mais toujours en pure perte, Dieu revient sur terre. L'incarnation qui vient le jour de Noël n'a pas bouleversé le calendrier, on le sait. Il faut laisser cela à ceux qui s'appellent Hérode, César et tous ceux qui leur succèdent et qui ont pris la suite. Mais la venue d'un Dieu en nous bouleverse notre rapport à l'espérance et à nous-mêmes. C'est ça qui change. Et ça, c'est Marie qui le porte en elle et celui qui exercera son ministère et qui sortira d'elle incarne cette espérance pour nous. S'il existe dans ce texte un appel, une vocation, c'est bien celle-ci, l'espérance et cette capacité que nous avons de faire notre vie un moment de transmission confiante, de se sentir partie prenante de cette chaîne et de faire sa part, un peu comme ces constructeurs de cathédrales qui étaient sûrs de ne pas voir la fin du chantier, mais qui faisaient tout de même, pendant 20 ans, 30 ans, inlassablement, les efforts qu'il fallait faire pour qu'au moins leur pan de mur, leur étage, soit terminé, parce que la génération suivante attendait leur contribution. Notre vie est un moment de transmission confiante. Il n'est pas facile de parler d'avenir et d'espérance aujourd'hui, surtout avec les dizaines et centaines de discours qui nous disent qu'il n'y a plus grand-chose à attendre. Ceux-là sont assez nombreux, hein, quand même. Pas grand-chose à attendre d'un monde perçu comme très angoissant, et il l'est, bien sûr. Pourtant, ceux qui mettront au monde leurs propres enfants, ils sont déjà là, parmi nous, accoucheront aussi d'un monde où il y a encore beaucoup de choses à attendre et à promettre. Question de transmission, question de confiance, une confiance que Marie est la seule peut-être à nous apprendre dans ces quelques versets d'aujourd'hui. Amen.